10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Xavier Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez la région des Hauts-de-France depuis 2015. Aujourd'hui, vous voulez diriger la France d'en haut. Votre ambition est connue. Vous avez dit « j'y pense, puis je me prépare ». Le Point a publié cette semaine un entretien dans lequel vous déclarez votre candidature. Est-ce que vous pouvez, en une minute, nous dire pourquoi vous êtes candidat, Xavier Bertrand?
Parce que je suis prêt. Parce que je pense que c'est le moment de prendre mes responsabilités. La France est à un moment comme rarement elle a pu connaître. Une situation de crise d'une exceptionnelle gravité. La crise sanitaire, une crise sécuritaire, économique, identitaire. Et je pense qu'il faut donner un espoir. Il faut donner l'espoir du redressement, l'espoir de la réconciliation et aussi offrir une alternative politique. Nous ne pouvons pas en 2022 comme en 2017 avoir Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Il faut donner l'espoir d'une alternative. C'est ce que je veux expliquer aux Français, c'est ce que je veux incarner. Et donc il faut du temps pour aller à leur rencontre, pour expliquer, pour dialoguer, pour convaincre. Je prends mes responsabilités.
Alors c'est l'effervescence dans les coulisses de la droite et de la Macronie où on sait lire un calendrier. En 2016, pratiquement à cette époque, Emmanuel Macron lançait sa conquête éclair du pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes à 12 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Et Xavier Bertrand, vous décidez de ne plus attendre. Alors ce coup de poker est-il une démonstration de force ou un aveu face à des sondages trop sages? Votre parole ce matin est très attendue. Vous allez nous dire en quoi votre projet est-il différent ou nouveau pour régler les crises et comprendre ce que vivent les Français. Je salue Nicolas Barré des Échos et Damien Fleurot de CNews, à qui je passe la parole.
Bonjour, bonjour. Xavier Bertrand. À l'issue du Conseil européen cette semaine, le chef de l'État Emmanuel Macron a été questionné sur sa stratégie sanitaire. Et depuis le début de l'année, finalement, Emmanuel Macron ne trouve rien à redire. Écoutez.
Nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier. Parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles. Donc je peux vous affirmer là, cette fois-ci, que je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison de le faire.
Xavier Bertrand, elle vous étonne, cette déclaration du président de la République?
Laissons de côté la tentation première, qui est de réagir aussitôt, et de voir dans quelle situation on est aujourd'hui. Il y a toujours quotidiennement des décès, des malades, des gens de plus en plus jeunes qui sont malades. On a des commerçants, des entrepreneurs qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Les Français sont inquiets, ils en ont marre, sont exaspérés, et exaspérés aussi par les polémiques. Alors je voudrais surtout vous dire ce qui, à mon sens, est indispensable de faire, ce que je ferai aujourd'hui. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est la stratégie vaccinale. Personne, aucun président, aucun dieu n'est plus fort que le virus. Il n'y a que le vaccin qui est plus fort que le virus, que le vaccin.
Mais sur le confinement du pays?
Non, c'est le vaccin, la meilleure réponse. Je le disais début janvier. Je le disais également en septembre, quand j'étais auditionné par la commission d'enquête du Sénat en disant « Nous n'avons pas le droit de nous manquer sur la question de la vaccination ». Nous le savions après l'échec des masques, après l'échec des tests. La vaccination, c'est ce qui permettra la victoire finale. C'est donc cette mise en alerte que j'avais effectuée. Et donc aujourd'hui, la question de la stratégie vaccinale est clé. Quand est-ce que nous aurons suffisamment de vaccins pour protéger les Français? Et ce que je voudrais également, c'est qu'on arrête avec la communication politique et qu'il n'y ait pas de décalage entre les paroles et les actes.
Ça veut dire que c'est la communication politique ce qu'a fait le président de la République à l'issue du Conseil européen?
Et cette semaine aussi. Le président est venu à Valenciennes avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, en disant... Cette semaine, vous allez avoir 30 000 doses supplémentaires et 30 000 encore la semaine prochaine. Parce que j'avais indiqué, les Hauts-de-France, comme l'Île-de-France, nous sommes la région la plus touchée. Et on a besoin d'avoir un maximum de doses en plus pour éviter la contamination, pour éviter les malades. Donc ça, c'est ce qui nous a été dit. Le centre de vaccination de Denain, dans le Nord, était ouvert la semaine dernière. Il a dû être fermé faute de doses. À Saint-Quentin, le centre de vaccination qui est au Palais des Sports était ouvert tout le week-end dernier. Il est fermé au moment où je vous parle dimanche. Il n'a été ouvert qu'hier, faute de doses. Vous voyez la différence entre la parole et les actes. Et aujourd'hui, ce qui pour moi est le plus important, c'est qu'on joue carte sur table la vérité et la transparence sur la question de la vaccination et que nous décidions, une fois que les personnes les plus fragiles auront été vaccinés d'une nouvelle stratégie vaccinale, notamment pour les personnes les plus exposées. Les plus exposés.
Vous pensez aux premières lignes, par exemple ?
Je pense aux enseignants, c'est sûr, mais je pense aux forces de sécurité et je pense à tous ceux qui sont en première ligne et qui ne sont pas en télétravail. Que ce soit les agents de propreté, une caissière, combien elle voit passer de personnes dans la journée ? Un chauffeur de taxi, combien il voit passer de personnes dans la journée ? Tous ceux qui ne peuvent pas travailler de chez eux, ceux-là doivent être vaccinés en priorité, une fois que les plus fragiles auront
Vous dites qu'il faut arrêter la communication et dire la vérité. Vous avez eu l'occasion de lui dire les yeux dans les yeux, cela au président de la République, parce qu'on ne vous a pas vu sur les images à Valenciennes.
C'est pas moi qui organisais le pool presse, c'est l'Élysée qui le faisait. Non, juste un point là-dessus, parce que ce que vous dites, et dans les propos tout à l'heure. Dans ce que dit le président de la République, vous savez, dans la vie publique, dans la vie politique, je pense qu'il ne faut pas hésiter à reconnaître ses erreurs. Mais il y a pire que de ne pas vouloir reconnaître ses erreurs. C'est de ne rien apprendre de ses erreurs. De ne rien apprendre. Comment voulez-vous qu'il y ait ensuite la confiance avec le peuple français ? Ils ont le sentiment que quand il y a eu des échecs de stratégie, que dans ces cas-là, on ne veuille pas le reconnaître. Regardez le contraste avec Mme Merkel, qui est certainement aujourd'hui la référence de l'attitude des gouvernants par rapport à leur peuple. C'est-à-dire, Mme Merkel fait confiance au peuple allemand et le peuple allemand lui fait confiance. Là, il n'y a pas cette confiance. Et depuis le début, c'est un peu comme si les élus locaux, je suis aujourd'hui président de région, il n'y a pas ce dialogue qu'on devrait avoir avec l'État. Et vous voyez, cette question de la confiance est clé dans cette crise pour en sortir, mais elle sera aussi la clé, la confiance des mois et des années qui viennent si on veut conduire le redressement de la France.
Alors, en l'occurrence, l'événement n'était pas le même, hein, mais on a entendu qu'effectivement, il y avait deux tonalités différentes. Nicolas Barré.
Et vous dites, juste à l'instant, vous disiez on a dû fermer un centre de vaccination faute de doses, mais c'est de la faute à qui ? À l'exécutif ou aux labos qui n'ont pas fourni ce qu'ils avaient prévu de fournir ?
Je pense que la stratégie du départ, et encore une fois, je l'avais indiqué au mois de janvier, n'a pas été la bonne. Je pense qu'on a rechigné à payer le prix fort pour les vaccins. Les pays qui ont aujourd'hui des vaccins, en premier, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada également, ont payé, rubis sur l'ongle, ont payé le prix fort pour avoir des vaccins.
Le Royaume-Uni, vous le savez, beaucoup de vaccins sont venus d'Europe.
Oui, d'accord, mais enfin, en tout cas,
et ont été exportés vers le Royaume-Uni.
Boris Johnson a payé avant même de savoir si ça allait fonctionner. Dans la vie politique, il faut aussi prendre des risques si c'est pour protéger sa population.
Mais ça, il a reconnu, Emmanuel Macron, il a dit à la télévision grecque, il a dit on n'a pas été assez ambitieux. Donc voyez, il est capable aussi, comme vous dites, de reconnaître les erreurs.
Quand nous sommes en guerre, quand nous disons quoi qu'il en coûte, le quoi qu'il en coûte, il va jusqu'au bout. Regardez ce que cela veut dire quand votre peuple est protégé, vacciné. Ça veut donc dire qu'il y a moins de malades. Mais ça veut dire également, pour ceux pour qui la dimension économique est la plus importante, c'est de voir aussi toutes les économies que ça va pouvoir procurer. C'est-à-dire que l'investissement massif dans le prix d'un vaccin est un bon investissement. Et nous avons rechigné à le faire, ça a été une erreur. Et il y a une deuxième erreur. Ça a été de tout confier à l'Europe.
Justement, Xavier Bertrand, l'Europe a manqué de clairvoyance. L'Europe a cherché finalement mettre en place une politique sur des acquis, celle d'une solidarité.
Il fallait négocier pays par pays.
Écoutez, je suis un Européen. L'Europe, on a besoin d'elle dans certains domaines. Il y a d'autres domaines dans lesquels elle n'est pas faite pour cela. On n'aurait jamais dû confier. Le président de la République, parce qu'il a joué un rôle majeur là-dedans, n'aurait jamais dû demander à un moment donné que ce soit l'Europe qui gère à la place des États. Je suis intimement convaincu que dans ces cas-là, il faut que nous ayons des procédures qui soient des procédures nationales. Et encore une fois, je voudrais revenir un court instant en arrière. À l'époque, le président Chirac, quand nous avons à préparer le pays face à la crise H5N1, me donne son feu vert. Personnellement, il me donne son feu vert pour que j'aille négocier directement en Suisse avec le PDG des laboratoires Roche pour que nous ayons le Tamiflu nécessaire. Nous le faisons dans un cadre national avant que ce soit un cadre européen. Parce que l'enjeu, c'est de protéger les Français en premier.
Et là, donc, ça n'a pas été le cas ? Ça n'a pas commencé par une négociation nationale ?
Mais non, on a donné, à un moment donné, l'idée que c'était l'Europe qui devait gérer, et ça a été une erreur. Parce qu'il y a une bureaucratie européenne. Regardez le PDG de Moderna, ce qu'il indique. Il indique très clairement que quand ça s'est négocié, allez, en quelques jours, il a fallu des semaines, aux États-Unis, avec le Canada, ça a été des semaines et des semaines au niveau de l'Union européenne. Ce n'est pas possible de fonctionner comme ça.
Donc il aurait fallu y aller chacun pour soi.
Bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des pays aujourd'hui qui ont passé des commandes en plus, qui sont justement des pays qui sont les premiers servis. Et vous y ajoutez ensuite une autre dimension, c'est qu'il y a toujours un drame français qui est un drame bureaucratique, c'est que même quand on pense avoir les doses de vaccins, on se dit toujours « l'intendance suivra ».
Alors, à propos de bureaucratie...
Non, l'intendance doit primer. En France, nous devons revenir à une approche qui est une approche très terrain, très pragmatique.
Justement.
On doit se dire que l'efficacité doit être la boussole et l'intendance est la priorité.
Nicolas
Barré. À propos de terrain, alors le maire de Cannes, David Lisnard, s'est attiré les foudres d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, parce qu'à Cannes, il vaccine les plus de 50 ans, quel que soit leur... sans aucun critère, sans limite.
Pour pas gâcher les doses.
Parce qu'ils ont des doses. Est-ce que vous feriez la même chose, que vous défendez cette position ?
Moi, je viens de vous dire quelle serait ma stratégie vaccinale. C'est de protéger aujourd'hui, une fois que les plus fragiles le sont, ceux qui sont en première ligne. Ceux qui travaillent et qui ne peuvent pas travailler de chez eux. Pourquoi David Lisnard fait cela ? Mais il fait cela tout simplement parce que c'est ce que Christian Estrosi a fait également à Nice. Parce qu'il y avait des doses qui étaient en plus, et avec ces doses en plus, plutôt que de les gaspiller, il a proposé cela. Mais regardez, que ce soit sa proposition, que ce soit la proposition d'élus locaux, que ce soit Valérie Pécresse, Rachida Dati, on est obligé d'être dans les médias pour faire des propositions parce que nous n'avons pas ce dialogue. Il n'y a pas ce partenariat. Il n'y a pas cette marque de confiance à notre égard. C'est aussi pour cela que les initiatives fleurissent. Mais ils ont raison de mettre ces propositions dans le débat. L'important, c'est qu'on comprenne que seul, on ne peut pas être efficace.
Avant de passer à la pause, une question. Et faut-il fermer les écoles ?
Et si on commençait par tester massivement, avec des tests salivaires, dans toutes les écoles ? On nous l'a annoncé, j'étais cette semaine dans des lycées de ma région pour voir comment les choses se passaient. Des proviseurs des lycées n'ont
aucune
information.
Donc vous n'êtes pas pour la fermeture des écoles ?
Non, c'est ce que je viens de vous dire. Soit l'actuel président a des informations précises sur ce qui se passe dans les écoles. Et dans ces cas-là, si c'est plus sous contrôle, il faut les fermer. Mais autrement, parce que je pense que c'était une bonne chose de préserver les écoles, de préserver l'activité dans les écoles, c'est massivement des millions et des millions de tests dès cette semaine pour savoir. Et le principe, s'il y a une classe où il y a un cas, dans ces cas-là, on la ferme, est un bon principe. Je pense que pour la continuité de l'apprentissage, pour garder ce lien social, maintenir l'école a du sens, à moins qu'ils aient des informations que nous n'avons pas.
On se retrouve avec Xavier Bertrand pour savoir comment sera-t-il ou serait-il le président du redressement national.
Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Et Xavier Bertrand, candidat pour 2022 à l'Élysée, avec son programme sur le redressement national. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était en visite à Bordeaux jeudi. La sécurité, vous le savez, est une préoccupation grandissante de nos concitoyens. On écoute, on regarde.
Au travail du ministre de l'Intérieur, à la demande du président de la République et du Premier ministre, c'est de remettre à niveau les effectifs de sécurité publique, ceux qui sont là pour faire de l'îlotage, de la présence, de la proximité auprès de nos concitoyens. J'ai été maire, je sais à quel point c'est important, évidemment.
Alors Xavier Bertrand, vous reprenez à votre compte cette notion d'ensauvagement de la France posée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. En quoi le gouvernement ne prend-il pas la mesure de la situation, d'après vous ?
Pourquoi je parle autant du rétablissement de l'autorité ? Sans autorité, il n'y aura pas de sécurité. L'insécurité, c'est la première de nos inégalités. Vous savez, l'inégalité liée à la sécurité, elle est concrète. Certains se font une idée de l'insécurité et d'autres la vivent au quotidien, cette insécurité. Il ne peut pas y avoir de confiance. Il ne peut pas y avoir d'esprit national. Il ne peut pas y avoir d'esprit républicain. Et je ne veux pas que les Français finissent à un moment donné par douter de tout, voire même se fassent justice par eux-mêmes. Parce que là, il n'y a plus de République, il n'y a plus de France. Voilà pourquoi c'est si important, et ça fait des années et des années, qu'il y a eu beaucoup d'engagements, beaucoup de promesses, et que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut pour cela ? Ce qu'il faut pour cela, c'est une question de moyens. Des moyens humains, il y a eu un renforcement depuis un certain nombre d'années, des moyens matériels, techniques. Il y a ensuite les instructions qui sont données aux forces de l'ordre, aux forces de sécurité. Il y a la réponse pénale, je vais y revenir surtout.
Ouais,
et puis il y a aussi le soutien et la protection aux forces de sécurité. C'est-à-dire qu'il faut les soutenir. C'est une police républicaine.
Mais jusqu'à présent, tout ce que vous dites, on l'a entendu depuis tellement longtemps.
Ça n'a pas toujours
été le cas. Et même ce gouvernement le dit.
Ça n'a pas toujours été le
cas. Qu'est-ce qui est différent, Xavier Bertrand ?
C'est la question notamment de la réponse pénale. Prenons l'exemple de la réponse pénale parce que Nicolas Barré a parlé de l'ensauvagement. Vous avez aujourd'hui.
Enfin, en l'occurrence, c'est Gérald Darmanin qui en a parlé.
Vous avez une violence qui est de plus en plus précoce, une hyper-violence. On a connu un été qui nous a fait penser à ce film terrible d'Orange Mécanique, où vous avez aussi des phénomènes de bande. On se tue à 15 ans, on se massacre. Et donc, je suis pour apporter des réponses qui sont des réponses inédites, qui n'ont jamais été portées, notamment l'idée qu'il y ait une majorité pénale dès 15 ans, c'est-à-dire qu'à partir de 15 ans, le juge aura la possibilité d'infliger les mêmes sanctions que pour un adulte.
Pour un majeur.
Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Certains confondent aujourd'hui l'immunité avec la minorité, ou s'en servent. Ça n'est plus possible. De la même façon, si vous voulez prendre les mesures qui s'imposent, il faut qu'il y ait un juge pénal pour les mineurs. Le juge de l'enfance, celui qui s'occupe des mineurs à protéger, ça ne peut pas être le même que celui qui s'occupe des mineurs qui sont des délinquants.
Mais à 15 ans, Xavier Bertrand, est-ce qu'il ne faut pas protéger ces mineurs?
C'est là votre,
même s'ils
votre
sont
révolution
dans la,
dans la justice?
Vous avez tout un enjeu qui est un enjeu avant tout familial, et j'aurai l'occasion de revenir sur la façon dont nous pouvons davantage responsabiliser les familles, parce que ça commence par là. Je pense que l'instruction est le rôle de l'école, mais l'éducation c'est avant tout le rôle des parents. Je suis aussi très attaché à l'accompagnement individuel renforcé, à la prévention de la récidive. C'est ce que j'ai fait dans ma région, c'est ce que j'ai fait dans ma ville de Saint-Quentin. Mais en attendant, on a une réponse à apporter. Ceux qui peuvent tuer quelqu'un, ceux qui peuvent être des délinquants, ceux-là, il faut protéger l'ensemble de la société. Je vais même aussi beaucoup plus loin que cela. C'est que vous avez parlé de l'ensauvagement, il y a la question de la justice mineure, mais on ne peut pas continuer avec cette impunité. Il faut aujourd'hui que nous ayons un dispositif où la condamnation avec sursis, la fois d'après, il y ait une révocation du sursis. Vous ne pouvez pas continuer à avoir des gens qui sont condamnés au sursis et qui s'en moquent. Ça provoque l'impunité.
La loi là-dessus.
Bien sûr, vous ne pouvez pas avoir des récidivistes qui recommencent à chaque fois sans aucune condamnation. Vous ne pouvez pas avoir toutes ces amendes qui ne sont pas recouvrées, plus de la moitié. Ça veut dire qu'il n'y a que les braves gens qui payent aujourd'hui leurs amendes. Le délinquant habituel, il ne règle rien. Voilà pourquoi sur tous ces sujets, c'est un changement en profondeur qui devra passer dans certains cas, notamment pour la lutte contre le terrorisme, par un changement de la Constitution. Parce que je voudrais aussi vous expliquer pourquoi on n'a jamais été jusqu'au bout. Tout simplement parce que quand il y avait des mesures efficaces, elles ont été changées par une autre majorité. Ce qu'une majorité faisait, une autre majorité la défaisait. Si j'en appelle au peuple, et si je souhaite que sur ces questions majeures, notamment la lutte contre le terrorisme, nous puissions changer la Constitution par un référendum et un référendum populaire, c'est parce que ce que le peuple a fait, il n'y a que le peuple qui peut le défaire.
Mais il a changé dans quel sens?
Je vous donne un exemple. Vous avez les terroristes, qui notamment au moment de tous les attentats que nous avons connus, ont été condamnés à de la réclusion criminelle. Or, nous savons pertinemment que 30 ans après, ils pourront sortir. Je propose de porter ce délai à 50 années. Parce que à 51 ans pour certains d'entre eux, à 54 ans pour l'autre, peut-être qu'ils auront changé, peut-être qu'ils n'auront pas changé. 50 ans après, nous aurons protégé la société française. Pour cela, il faut que nous puissions passer outre la jurisprudence européenne, et il n'y a rien de plus fort qu'un changement constitutionnel
une question
par le
pour
peuple.
Comprendre.
Vous voyez, sur tous ces sujets, ça n'a jamais été fait.
Non, il faut qu'on
puisse poser
une question pour éclaircir.
Important. Je veux juste aller jusqu'au bout.
Justement pour éclaircir.
Vous voyez, on s'est d'une certaine façon auto-censuré, parce qu'il y avait les juges, et pour certains politiques, c'était certainement commode. Et ça permettra en plus que les Français disent clairement dans quelle société ils veulent vivre. Nous resterons un état de droit. Mais c'est le peuple qui dira aussi très clairement, en fonction de ce que j'aurais proposé, présenté lors de l'élection présidentielle, dans quelle société ils
Bertrand,
veulent vivre.
C'est ça votre manière d'exercer l'autorité. À peine vous êtes élu, vous allez demander au peuple ce qu'il en pense, au lieu d'être capable de prendre une décision. Est-ce que ce n'est pas plutôt un aveu de faiblesse?
Ça fait trop longtemps que beaucoup de Français pensent que leur avis ne compte pas. Il y a même beaucoup de Français qui pensent
qu'aux
yeux des décideurs...
Si vous élisez, c'est parce qu'ils savent sur quel programme, donc leur avis compte.
Qu'aux yeux des décideurs, même leur vie ne compte pas. Alors il est temps de leur rendre la parole. Vous savez, je suis très clair quand j'ai dit tout à l'heure que je prenais mes responsabilités, je les prends là également. Je sais que certaines de ces mesures ne font pas consensus, mais elles me semblent indispensables pour établir autorité, sécurité et justice. Et si je veux changer la Constitution, Monsieur Darmon, il y a deux façons de le faire. L'article 89, avec une procédure purement parlementaire, ou l'article 11. Et quand je dis l'article 89, à la fin, c'est soit une procédure purement parlementaire, soit le peuple. Moi, je fais le choix du peuple, parce que j'ai bien l'intention d'avoir recours davantage au référendum pour faire respirer notre démocratie. Il faut bien comprendre que derrière tout ce qui s'est passé...
Votre mandat, ce sera à chaque fois qu'il y a une question, hop, un référendum,
pas tous les trois mois. Et pas des questionnaires à choix multiples. C'est sur des enjeux fondamentaux. La sécurité des Français, la lutte contre le terrorisme, c'est un choix fondamental. Et je dirais, par un référendum dès la rentrée, le temps qu'il soit préparé, aux Français de se prononcer là-dessus.
Ceux qui vous connaissent, on entend votre détermination et votre fermeté ce matin. Mais ceux qui vous connaissent également de votre manière de gouverner disent, au fond, il s'adapte toujours, il ne va pas jusqu'au bout des décisions, il n'ose pas. Qu'est-ce que vous répondez là ce matin ? J'ai changé ?
Alors ceux qui disent ça ne doivent pas bien me connaître. En tout cas, ce n'est pas des proches. Vous savez, j'ai cette liberté, j'ai cette détermination, parce que j'ai conscience qu'on est engagé depuis bien longtemps sur la voie d'un déclin. Le déclin d'un pays, c'est le déclassement des Français. Ça veut dire que les catégories populaires, les classes moyennes, les cadres également, se disent que demain, ils vivront moins bien, moins en sécurité, que leurs enfants vivront moins bien. Si on ne comprend ça, et moi qui viens aussi du peuple, qui vois autour de moi, dans les Hauts-de-France ou ailleurs, ce que les gens vivent et ressentent, mais c'est plus la même France. Et ce que je veux, c'est qu'on retrouve à la fois cette confiance et cette fierté. Et je sais qu'on n'a plus le choix, et je vais même plus loin. Parce que vous dites ceux qui me connaissent bien. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis aussi déterminé. Un mandat présidentiel, et c'est tout. Parce que, bien souvent, surtout depuis qu'il y a le quinquennat, celui qui est élu, il n'a qu'une envie en tête.
Un mandat
c'est certainement
de combien de temps
humain. C'est-à-dire qu'il veut faire un deuxième mandat. Et donc,
cinq
il pense bien souvent
ans,
à sa réélection.
Ans, quelle longueur
il
de
regarde
mandat.
De plus, par exemple, sa courbe de popularité que l'intérêt national, que l'intérêt général. Moi, je pense que la bonne décision, ça serait 6 années. 6 années, et donc, l'ensemble des mandats en France seraient à 6 ans, mais les élections, par exemple, locales, seraient à la moitié du mandat, c'est-à-dire qu'on aurait des élections de mi-mandat, ce qui donnerait une respiration démocratique supplémentaire. Mais en ce qui me concerne, élu en 2022, ça ne pourrait pas s'appliquer pour moi et ce ne serait donc que 5 ans. Mais en 5 ans, si vous êtes bien préparé, si vous travaillez bien en équipe, vous remettez déjà notre pays vraiment sur des bons rails.
Juste en quelques instants, vous avez évoqué les élections régionales. Comment vous allez expliquer à vos électeurs du Nord que vous voulez absolument vous battre pour la région alors que tout le monde sait que vous pensez à l'Élysée ?
Ils l'ont bien compris, vous savez pourquoi ? Je dis toujours les choses de façon très claire et très carrée. Donc ils savent pertinemment que je souhaite continuer à développer la région avec mon équipe, que l'on souhaite continuer à faire de l'emploi, du redressement économique une priorité, qu'on va s'attacher davantage à leur sécurité, à leur santé. Et ils savent encore une fois que je ne suis pas un homme seul. Je ne travaille pas seul, je ne décide pas seul. Il y a toute une équipe. Et puis ils savent aussi que si on veut vraiment changer les choses dans la région, ça se passera aussi au sommet de l'État.
On se retrouve donc pour parler avec Xavier Bertrand, le candidat contre Paris ou le Paris de la démagogie ?
Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Et surtout Xavier Bertrand, candidat à l'Élysée, qui dévoile ce matin son programme. Question Nicolas Barré.
Alors, vous souhaitez que les reconduites à la frontière soient réellement exécutées. Vous savez très bien que souvent ça bute sur le refus des pays concernés. Quel levier comptez-vous utiliser qui n'ait pas été utilisé jusqu'à présent ?
Tout d'abord, un bras de fer avec les pays concernés.
Mais c'est ce qu'on fait déjà.
Non.
Gérald Darmanin a fait une tournée dans les pays du Maghreb pour les visas.
Exactement. Le ministre de l'Intérieur est allé au Maghreb. Il a essayé de faire pression. Quel moyen de pression supplémentaire est-ce que vous comptez engager ?
Ça se passe de chef d'État à chef d'État, avec un message très clair, qui sera ensuite mis en musique par les ministres. Vous ne reprenez pas vos ressortissants. Plus personne de chez vous, président, ministre, chef d'entreprise, ne rentre en France. Plus personne. Vous ne reprenez personne, plus personne ne rentre.
Vous diriez ça aux Marocains, aux Algériens,
évidemment.
Aux
Tunisiens ? Il y a tellement de relations.
Xavier Bertrand, on est à une époque où si vous n'êtes pas capable d'engager des dialogues, mais aussi des bras de fer, l'autorité d'un pays est bafouée. Et donc, très clairement, le chef de l'État, c'est le président des Français, c'est le président de la France, et il doit défendre les intérêts de son pays. Donc il faut être, pardonnez-moi, intransigeant.
Mais est-ce qu'on
être très clair sur ces questions,
Xavier Bertrand, qui voit des populations fuir pour des raisons souvent économiques ces régions ?
Ce sont deux choses bien différentes. Sur la première question que vous évoquiez, aujourd'hui 15% seulement des obligations de quitter le territoire français sont effectuées. Ce qui veut dire que quand on rentre en France, on reste en France. Moi, je veux conserver le droit d'asile, parce que le droit d'asile, c'est la France. C'est un héritage qui nous vient aussi du général de Gaulle, et ceux qui veulent mettre un terme au droit d'asile, ceux-là ne défendent pas les intérêts de la France. En revanche, je veux aussi que l'on ait une politique d'immigration par quota, par métier, par besoin lié au travail. Et ça, c'est aussi un changement en profondeur qui devra, pour ma part, être validé également par le même référendum constitutionnel. C'est le peuple français qui dira quel modèle migratoire ils veulent. Moi, je ne suis pas comme ces démagogues qui disent l'immigration zéro. Parce que nous avons aussi besoin d'accueillir des étudiants qui seront des leaders dans leur pays. Parce que c'est la question du développement. Je suis aussi, et je proposerai, qu'il y ait au niveau européen un pacte. Un pacte entre l'Europe et l'Afrique pour le développement de ce continent. On ne peut pas continuer à ne pas regarder que le réchauffement climatique aura chez eux beaucoup plus de conséquences et qu'il faut les aider, notamment sur l'énergie, c'était le projet de Jean-Louis Borloo, sur le développement industriel. Et sur tout cela, si on se contente d'avoir des politiques de coopération comme on les a eues depuis longtemps, ça ne suffira pas. C'est un véritable pacte entre tout un continent et un autre continent, et ce sera l'intérêt de tous.
Alors, Xavier Bertrand, vous voulez instaurer la République des territoires, dites-vous. Alors, comment croire que vous serez, en quelque sorte, le candidat du terrain, des invisibles, des gilets jaunes, alors qu'en fait, dans votre programme, vous voulez aussi repousser l'âge de départ à la retraite?
Alors, on commence par quoi? La République des territoires, c'est un changement profond. Ce n'est pas seulement un changement de régime politique, c'est aussi un changement de société, de modèle de société. C'est une nouvelle société. Le système français aujourd'hui repose depuis bien longtemps sur le centralisme parisien. Et on a vu avec la crise du Covid que le centralisme parisien, c'est un cadavre qui encombre la société française, qui empêche cette efficacité. Donc, entendons-nous bien, je crois à l'État. J'ai été ministre pendant de nombreuses années, je suis élu local et je vois des deux côtés quel est le bon modèle à mettre en œuvre. La première des choses, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir une revanche de la province contre Paris. Ce serait une erreur.
Ça sonne un peu comme ça quand même. Hein.
Parce que je ne l'ai pas encore expliqué.
Allez-y.
Et dans cette émission, et dans les mois qui viennent. Ce n'est pas non plus une revanche de la ruralité contre les métropoles. C'est tout d'abord l'idée que nous allons transférer beaucoup de compétences, certainement comme jamais, aux collectivités locales. Je pense à l'emploi, je pense à l'action économique, je pense au logement, je pense au social notamment. Je pense à la transition énergétique, les énergies nouvelles. Ne pensez pas quand même que ce serait bien que les habitants d'une région décident quel mix énergétique, de quelles énergies ils veulent sur le territoire, qu'ils puissent même devenir actionnaires de sociétés d'énergie pour payer moins cher? Tout cela aurait du sens. Mais c'est aussi un autre projet de société, c'est-à-dire vivre et travailler autrement. Le télétravail pour ceux qui le peuvent amorce une révolution en profondeur. On n'est plus obligé d'habiter dans le cœur des très grandes villes, dans le cœur des métropoles. Mais ce qu'il faut dire également, c'est que ça va nous amener à faire un investissement en termes d'infrastructures dans les lignes de chemin de fer, dans les routes, dans la fibre, dans la téléphonie, dans les services publics, dans la culture, comme jamais on l'a fait. Ce qui à la fois donnera du travail et permettra aussi de montrer que la ruralité n'est pas condamnée à mourir.
Vous voulez que la France devienne l'Allemagne avec des Länder, avec un pays, qu'on devienne un pays fédéral en quelque sorte?
Des régions quasi autonomes,
indépendantes. Mon modèle n'est pas allemand. Mon modèle, il est français. Et c'est le modèle justement que je souhaite. C'est-à-dire qu'il y ait l'État qui soit là pour décider dans les fonctions régaliennes et les orientations, mais qu'ensuite ce soit dans les territoires que nous puissions avoir cette efficacité. Je peux vous donner un exemple. Nous allons voter dans 2 mois pour les élections départementales et régionales.
Pour vous,
vous êtes certain?
Je propose.
Vous n'avez pas d'informations?
Je n'ai pas d'informations. La seule chose, c'est que j'attends du Conseil scientifique qu'ils nous disent dans quelles conditions elles vont avoir lieu. Quel est le protocole sanitaire pour la tenue des bureaux de vote et pour la tenue de la campagne? Mais nous sommes aussi à un moment, même si la priorité est sanitaire, le débat politique, le débat public, la démocratie, ça doit être là, ça doit être présent. Je reviens un instant là-dessus. Mon idée, la suivante, c'est que plutôt que d'avoir 2 choix différents lors des élections qui vont venir, c'est d'avoir un seul bloc département-région. C'est-à-dire que le conseiller départemental soit en même temps conseiller régional. Simplification, moins d'élus, 1/3 d'élus en moins, et vous auriez dans ces conditions-là département et région qui auraient une cohérence remarquable. Ça veut dire que toute la politique sociale dans notre pays serait l'affaire des départements.
Alors, supprimer
ça
le
serait
nombre
beaucoup
d'élus.
Plus clair. Toute la politique économique, de l'emploi, de la formation, serait celle des régions. Et vous avez cette efficacité. Mais encore une fois, moi, je ne veux pas que l'État disparaisse. Je veux que la bureaucratie disparaisse. Et cette simplification, elle ne doit pas occulter le fait qu'il y a des fonctionnaires qui obéissent à des règles, qui sont justement aujourd'hui assommés eux également par une complexité qui vient de Paris. Quand vous prenez, notamment au moment du Covid, on a eu des circulaires de 60 pages qui étaient inapplicables sur le terrain.
Mais ça peut être régional, la bureaucratie aussi. Hein.
Si vous avez à la fois des élus et des préfets qui forment un bon tandem, je vous garantis que ce n'est pas la même chose que la complexité kafkaïenne que vous avez dans les ministères. Ce que je veux,
quand même,
c'est
vous
déparisianiser le système français, parce qu'il ne fonctionne pas.
Vous refaites quand même le coup des territoires contre Paris, vous êtes un élu local, ce n'est pas un peu démagogie quand même?
C'est la garantie de l'efficacité, c'est la façon de faire respirer notre pays, et puis c'est engagé, et puis allons jusqu'au bout. La crise des Gilets jaunes était une crise sociale, la crise de ceux qui, travaillant, n'arrivaient plus à s'en sortir et qui disaient « ça suffit ». Mais c'est aussi toute cette ruralité qui dit « mais nous, on ne veut pas mourir à feu doux ». Vous, vous avez les services publics, vous avez accès au digital, à des emplois. Tout mon projet également sur la réindustrialisation du pays, sur le développement de l'artisanat, sur le développement de l'agriculture. C'est aussi l'aménagement du territoire que j'ai clairement en tête. Les nouvelles usines ne s'implanteront pas dans le cœur des métropoles, mais elles iront dans des villes moyennes, elles iront dans des territoires ruraux. Je sais que ça peut être compliqué à entendre quand on est ici à Paris, mais non seulement c'est une attente de nombreux ruraux, mais c'est une attente de nombreuses personnes qui vivent pas si bien que ça dans le cœur des métropoles.
Rien n'est compliqué pour nous d'en entendre. Damien Fleurot,
Xavier Bertrand,
pour comprendre.
Souvent on dit qu'Emmanuel Macron parle à une droite bourgeoise, aux catégories aisées, urbaines, que Marine Le Pen, elle, s'adresse plutôt aux classes populaires. Et vous, votre espace, il est où, Xavier Bertrand?
C'est l'ensemble des Français. Moi, je viens du peuple. Mon histoire est celle-ci.
Vous faites du « et en même temps ». Vous parlez à...
Rassembler, ce n'est pas le « en même temps ». Le « en même temps », ça conduit à la paralysie, au statu quo. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le statu quo, ça ne nous sortira pas de notre déclin. Moi, j'incarne une droite qui est une droite républicaine, très attachée à ses valeurs républicaines, mais en donnant une dimension concrète à la liberté, à l'égalité, à la fraternité.
C'est ce qui est renforcé en permanence national et à la laïcité.
Enfin, il y a un mot qu'on n'entend pas ce matin, c'est social. Vous êtes très à droite ce matin.
Et également,
par rapport à ce qu'on connaissait de vous, Xavier Bertrand.
Mon histoire est celle-ci. Je suis élu d'une région où il y a à la fois des difficultés, mais des atouts formidables. Des gens qui ont des difficultés sociales, mais qui veulent s'en sortir et qu'on aide à rebondir. Tout l'enjeu aujourd'hui. Je parlais notamment dans les priorités vaccinales de ceux qui sont les invisibles, de ceux qu'on a remerciés pendant le premier confinement. Les caissières, les livreurs, les chauffeurs routiers, tous ceux qui, au général, ont été oubliés très vite après la crise du Covid. Ceux-là, je veux leur redonner des perspectives en termes de rémunération. Je veux leur donner également des perspectives en termes de reconnaissance, d'évolution dans leur métier. Encore une fois, l'enjeu que nous avons devant nous, c'est de libérer les entreprises et les entrepreneurs, mais de permettre à ceux qui travaillent de pouvoir vivre mieux, faire plaisir à leurs enfants et aménager leur avenir. Je suis le seul à porter ce message.
Bertrand,
je suis le seul.
Vous préparez depuis longtemps cette échéance. Dès le début du mandat de Nicolas Sarkozy, je m'en souviens, vous disiez « il faudra un jour dire la vérité aux Français ». Depuis ce temps-là, tout le monde a menti et vous êtes le seul à bientôt dire la vérité. Est-ce qu'il faudra dire la vérité, par exemple, sur le remboursement de la dette? Qu'est-ce qu'il faudra dire comme vérité aux Français?
Je pense qu'il y a une profonde déconnexion depuis longtemps de ceux qui nous dirigent. Je pense qu'ils ont du mal à savoir ce que pensent les Français, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils sont prêts à faire. Je pense que les Français sont prêts à des réformes, à deux conditions. Qu'elles soient efficaces, ça marche vraiment, et qu'elles soient justes. Parce que pour eux, ce qui est plus important qu'eux sont leurs enfants. Et prenez notamment toute cette génération 2000, ces enfants qui sont nés à partir de l'an 2000. C'est aussi pour eux que je propose ce projet qui est à la fois sur l'autorité, la République des territoires et sur le travail. Un travail qui paye, un travail qui soit reconnu. C'est pour eux. Nous ne sommes que de passage dans les fonctions qui sont les nôtres.
Tous les
Donc derrière, c'est pour les enfants
disiez,
et pour les jeunes.
Sont dans l'erreur.
Et les Français sont prêts à entendre cette vérité. Ils veulent juste que ceux qui les gouvernent les prennent en compte, les respectent. Et je crois, vous savez que c'est très important. Quand je vous parlais tout à l'heure de cette idée du référendum, je pense qu'un président qui est élu, qu'il fasse 20%, 25% au premier tour d'élection présidentielle, ça ne suffit pas. Il n'a pas un chèque en blanc. Et il doit bien évidemment porter son projet, mais il doit faire attention à respecter les uns et les autres. Quand vous êtes élu, notamment face au Front National, j'en ai fait l'expérience, vous devez penser bien sûr à ceux qui ont voté pour vous, mais à ceux qui n'ont pas voté pour vous et à ceux qui n'ont pas voté. C'est ça être président de l'ensemble des Français. Et ça... Ça fait bien longtemps que ça n'a pas été le cas.
On se retrouve avec Xavier Bertrand, candidat à l'Élysée. Combien de divisions ?
Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Et Xavier Bertrand, candidat pour 2022. Alors, on le disait, démonstration de force ou coup de poker, Nicolas Barré?
Oui, parce que depuis que vous avez annoncé votre candidature, on a l'impression qu'il y a un front qui se met en place un peu contre vous pour réclamer une primaire. Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, etc. Vous avez peur de quoi par rapport à la primaire?
Une élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme, une femme et les Français. Pas une partie des Français. Je suis un homme de droite sociale, d'une droite populaire. Mais je pense que cette élection présidentielle, surtout celle-ci, avec les circonstances, il faudra présenter un projet à tout le monde. J'ai en moi cette idée de rassembler. J'ai mes convictions. Et vous l'avez compris, vous le disiez tout à l'heure, elles ne font pas l'unanimité. Mais je suis intimement convaincu que ce sont les seuls qui seront capables de redresser le pays et de réconcilier les Français.
Mais vous avez tant de fois, vous avez dit, on a marre des divisions, l'électeur de droite dit arrêtez de vous battre à Paris. Et vous prenez le risque d'être le diviseur, en fait.
Moi, je prends juste un risque. C'est mes responsabilités, en disant la vérité aux Français sur ce que je veux conduire, sans chercher les demi-mesures, sans chercher à faire plaisir à tout le monde, en respectant chacun. Et d'ailleurs, Nicolas Barré, je rassemblerai les uns et les autres autour de ce projet.
Mais Xavier Bertrand, à un moment, vous disiez mon élection dans les Hauts-de-France, ce sera en quelque sorte ma primaire pour éventuellement passer l'étape d'après. Pourquoi est-ce que vous accélérez finalement ce calendrier?
Pourquoi cette élection régionale est importante pour moi? Parce que c'est la légitimité. Si 6 millions de Français ne me faisaient pas confiance, il est impossible d'aller à la rencontre de 67 millions de Français pour avoir leur confiance. C'est bel et bien dans cet esprit-là. Et puis ça permet aussi de montrer autre chose.
Comment on pourrait le démontrer si elle est reportée?
Ça permet de montrer autre chose également. Ce que j'ai voulu faire, j'ai été élu dans des circonstances bien particulières, la fois dernière, où les électeurs de gauche ne voulaient pas du Front National. Et vous voyez, plus qu'un combat contre tel ou tel parti, j'ai essayé de m'attaquer à la misère, à la colère, de faire reculer les causes du Front National. Parce que je suis intimement convaincu que si on réussit à faire reculer les problèmes des Français, il n'y aura plus de raison de se tourner vers les extrêmes. Je pense que le statu quo qu'incarne l'actuel président de la République nous conduira à cette forme d'explosion, parce qu'il y a trop de divisions dans sa politique, dans ses attitudes. Mais je sais aussi pertinemment que les extrêmes ne sont porteurs que de tourments pour notre pays, que de malheurs, que de problèmes supplémentaires. Et ce que je veux proposer, c'est cette alternative politique, de dire qu'il y a une autre voie, qu'il y a une autre possibilité.
Alors on entend que vous renvoyez dos à dos Le Pen et Macron, mais est-ce que vous entendez aussi ceux qui disent « Bertrand, c'est le petit assureur en quête de revanche sociale ».
J'ai souvent entendu ça, c'est vrai. C'est un très beau métier pourtant, assureur. J'étais assureur en milieu rural, c'est vraiment un très très beau métier. Je n'ai pas de revanche sociale, vous savez pourquoi? Parce que j'étais heureux quand j'étais jeune. Et c'est vrai que mes parents, mon père, a gravi différents échelons en travaillant dur, travaillant à la maison. Ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué, beaucoup surpris. On a même vécu dans une HLM, mais j'y étais heureux. Donc pas de raison d'avoir de revanche. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'à un moment donné, quand je suis devenu ministre, là, je me suis dit, je ne suis pas de ce monde-là. Je ne suis pas de ce monde parisien. Alors j'ai essayé d'en avoir les codes, conseiller en communication, passer beaucoup de temps dans des dîners en ville et tout cela. Et au final, c'était pas moi, c'était pas forcément ma place. Et les élections régionales m'ont remis clairement à ma place, avec les Français, au milieu des Français, dans les Hauts-de-France, pour pouvoir les conduire à nouveau vers cette forme de redressement, cette forme de sursaut. Et je crois qu'au final, je suis redevenu moi-même. Et c'est ça le plus important.
Nicolas Barré.
Et alors, est-ce que vous craignez la violence? On parle souvent de ça, de la violence de la campagne pour vous, pour vos proches. Vous n'avez rien à cacher, vous n'avez pas des factures de costume qu'on va découvrir?
Je l'achète moi-même. Je l'achète moi-même. Non, très sérieusement, revenons à ce que disait Mickaël Darmon à l'instant. Croyez que je ne suis pas préparé à cette adversité? Croyez que depuis toutes ces années, je n'ai pas été confronté au mépris, au dédain, aux critiques de certains? Mais attendez, si je ne suis pas préparé à ça, je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle. Celui qui pense que ça va être difficile ou autre, je comprends qu'il n'ait pas envie d'être candidat. Mais il y a autre chose derrière, c'est que ça donne aussi un sens. Servir le pays, servir les Français, aider les Français, donner un avenir. Ça, tout cela vaut cet engagement.
Oui, je suis prêt. C'est d'ailleurs un reproche que certains vous font. Vous êtes un professionnel de la politique. Vous mettez en avant votre passé d'assureur, mais finalement, vous êtes dans la politique depuis des années et des années. Vous êtes dans le système.
Ben, si j'étais dans le système, je n'entendrais pas les remarques qui ont été évoquées à l'instant.
C'est vrai que c'est ma passion depuis longtemps. J'ai découvert cette passion, c'était en 1980, autour de la campagne de Jacques Chirac. Son énergie, son charisme, sa volonté, oui.
Ça fait deux fois que vous le citez, Jacques Chirac, plus parce que Nicolas Sarkozy, c'est important d'avoir son.
J'ai été fier d'être le ministre de Nicolas Sarkozy, qui m'a fait confiance, mais le premier qui m'a fait confiance, notamment pour l'interdiction de fumer dans les lieux publics, c'était pas simple, c'était Jacques Chirac. Il fallait quand même venir un jeune ministre sur un pari comme celui-ci, aussitôt après ce que nous avions connu avec le CPE. Et Nicolas Sarkozy m'a fait aussi confiance pour porter notamment le service minimum dans les transports et d'autres réformes. Je vais jusqu'au bout du raisonnement. Pourquoi, à un moment donné, j'ai souhaité devenir assureur ? Pour avoir mon indépendance et connaître aussi autre chose que la politique. Je sais ce que c'est d'avoir à payer des salariés. Je sais ce que c'est que la paperasse française. Je sais ce que c'est également que d'aller voir des entreprises, des clients et de les aider. Je sais ce que c'est aussi, assureur à l'époque, d'avoir des gens qui, pour payer leur contrat d'assurance, faisaient 3, 4 ou 5 chèques qu'il fallait espacer. Et c'était à l'assureur de faire le tampon avec la compagnie parce qu'autrement, ils ne pouvaient pas s'assurer. Alors, donc je sais tout cela et cet apprentissage de la vie, je l'ai toujours en tête.
Xavier Bertrand, cette expérience vous servira certainement, mais également gérer le pays, avoir un regard sur la société, c'est aussi aborder d'autres questions. Nicolas Barré.
Oui, quel regard est-ce que vous portez sur, vous savez, toute cette cancel culture qui vient des États-Unis ? En France, certains comme l'UNEF, par exemple, organisent des réunions réservées aux non-blancs. Qu'est-ce que vous dites à cette génération qu'on peut appeler identitaire ?
Ceux qui propagent cette culture, ceux qui utilisent des thèses racialistes, ne nous y trompons pas. C'est un combat idéologique qu'ils mènent et c'est une attaque frontale contre les valeurs de la France et contre ce que nous sommes. Et ça suffit. Ça suffit qu'on se laisse au fur et à mesure prendre la tête, occuper l'espace par les uns et par les autres. C'est l'UNEF un jour. C'est Madame Pulvar hier. Et demain, ce sera quoi ? J'en ai assez aujourd'hui que l'on remette en cause en permanence. Et je leur dis, ça suffit. La France n'est pas un pays raciste. La France n'est pas un pays d'injustice. Et le pays des Lumières, c'est le pays justement qui a porté cet idéal républicain. La France, c'est ce pays où, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre religion, quelle que soit la situation sociale de vos parents, vous venez au monde dans un bon hôpital, vous grandissez dans une école de qualité, école, collège, lycée, université, c'est gratuit. Vous avez un problème de santé, vous êtes dans les meilleurs hôpitaux. Vous avez un problème d'emploi, on vous aide à rebondir. Mais alors on arrête de dénigrer la France. Et on peut même dire merci à tous ceux qui, parce qu'ils se lèvent le matin, travaillent dur, permettent d'avoir ce système solidaire. Ce combat idéologique, on doit le mener pied à pied. C'est l'islamo-gauchisme qui est derrière ça. C'est justement toutes celles et ceux qui luttent contre la France et qui veulent nous faire changer de modèle. Je le dis, aujourd'hui dans les fonctions qui sont les miennes, demain si les Français me font confiance, je serai intraitable sur ces questions. L'identité nationale, elle n'est pas négociable. Et l'UNEF aujourd'hui, je suis désolé, l'UNEF ne devrait plus avoir de financement public. L'UNEF ne devrait pas siéger dans des institutions publiques. Il y a un décret qui est sorti cette semaine qui dit que l'UNEF aura à nouveau sa place au sein du Conseil économique et social. J'ai moi-même écrit à mon préfet pour lui demander justement que la place de l'UNEF au sein du Conseil économique et social régional ne soit plus une évidence, ne soit pas justifiée.
Bertrand,
j'attends du gouvernement
colère,
qu'il dise la même
Xavier
chose.
Bertrand, on entend votre colère.
Et pourtant, il s'agit de la France, de l'idée qu'on s'en fait.
Et cette jeune génération dit il s'agit de nous, c'est-à-dire notre manière de voir les choses, de notre manière de nous sentir victimes. La droite a beaucoup défendu les victimes. Eux, ils se disent nous sommes victimes de discrimination. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Si vous êtes président de la République, vous devrez leur parler.
Que je devrais rendre la République plus concrète, plus efficace. L'égalité des chances, les libertés. Nos libertés qui aujourd'hui se sont quand même rétrécies, il faudra leur redonner tout un espace. La fraternité, c'est ce qui fait la différence de la France avec d'autres pays. C'est sur ces questions-là, je le sais bien, que nous avons des progrès à faire, mais je ne laisserai pas l'identité de la France, ce qui fait notre fierté remise en cause, il n'en est pas question.
C'était votre rendez-vous, grand rendez-vous, Xavier Bertrand. Merci beaucoup, à très bientôt. Europe 1.